Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@sympatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Potpourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligents. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Potpourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
J'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis.
tout un monde.
Émission en duplex pour des raisons d'absence en ce dimanche 19 février 2020 en partenariat avec Radio France Internationale, le Popourri Show, votre magazine hebdomadaire de la francophonie d'ici et d'ailleurs, vous présente un numéro chaud, chaud, chaud. Parce que je sais qu'il fait froid et il neige en abondance au Canada, surtout au Québec et je pense Saint John, hein, Halifax, dans ces coins-là et à Toronto aussi. Et oui, cette émission donc réalisée grâce à la contribution de DJ Devera, l'ingénieur du son, animation, production, votre serviteur Eric Kader. Et pour avoir une idée de notre programmation complète et aussi les prévisions des mois à venir, et oui, on parle du mois de l'histoire des Noirs tout au long de février, mais aussi le mois de la francophonie au mois de mars, et ben, j'espère que vous serez parmi nos invités, nos partenaires, nos experts, expertes en la matière, que ce soit en santé, relations interraciales, l'éducation, des questions linguistiques, des questions de la francophonie. Oui, qui sont vraiment les défenseurs de la francophonie torontoise, d'après vous? Voilà une belle question, hein. Envoyez-nous vos réponses, s'il vous plaît. Alors, toujours énergie, conviviale, avec des invités, des collaborateurs. Aujourd'hui, nous vous offrons 2 heures pour faire le plein de bonne humeur. Au menu, la nuit des idées 2020, édition 2020, dans 90 pays et sur 5 continents. On en parle avec Pierre Buller, le président de l'Institut français. Et oui, Eva Laverne nous présente la traduction du baiser de Nana Bush aux éditions Prise de Parole, un roman qui se déroule dans une réserve Anishinaabe et fait flancher le cœur de la chef. Et oui, après le Brexit, c'est le Mexit. Et oui, le Mexit passera-t-il par le Canada? Linda Giger, qui nous écoute en direct de Paris, journaliste à la rédaction de TV5 Monde, nous donne son avis. 10 ans après le séisme à Haïti, et nous dans tout ça, avec nul autre, mesdames et messieurs, pour la première fois, et c'est un invité à ne pas rater, Frédéric Boiron, auteur, percutant, sociologue, professeur, personnage décapant. Tous les médias le sollicitent en ce moment. D'ailleurs, la question que je vais lui poser, c'est pour quand votre propre radio, monsieur Boiron? Eh oui, gros bafouillage à des bibliothèques à public torontoises. Qui dit vrai? Oh, quel scandale! Vous avez été près de 230 personnes à répondre à nos questions et je concours et avez rédigé des contributions. 1000 fois merci. Et bienvenue à nos nouveaux partenaires, collaborateurs, madame, monsieur, des sponsors, Laura Bisaillon, professeure qui était à l'Alliance française cette semaine, a beaucoup de réactions de sa conférence à l'Alliance française, Peter Biro, qui est un avocat, qui est notre collaborateur, très 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 bien aimé, apprécié de la part des auditeurs que j'ai rencontrés cette semaine, The Broadview Hotel, comment ne pas aller faire un petit tour chez eux, ils sont formidables, et si vous voulez avoir un bon brunch chaque dimanche, et vous voulez être des nôtres, eh bien je vous invite à 1190 rue Dundas. Eh oui, Est, c'est la gare de l'Est. Nous remercions beaucoup Steph, qui est un chef formidable. Il nous a préparé quelque chose d'extraordinaire la semaine dernière. Merci 1000 fois. Gare de l'Est, madame, monsieur, voilà, c'est votre rendez-vous tout au long de l'année. Merci à Suzanne, qui nous écoute fidèlement à Rennes, et beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à Port-au-Prince, à Montréal, mais aussi dans la région de Niagara, on the lake. Merci. Popourri Show, 33 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Tout un monde, toute une semaine, toute la semaine, on a souligné à travers le pays la mort insensée de Canadiens lors de l'écrasement du vol PS752 Les universités, y compris l'Université de Toronto, ont été particulièrement touchées. De nombreux étudiants, diplômés et chercheurs figurent parmi les victimes. Nous revenons sur cette triste affaire qui connaît de nouveaux rebondissements chaque jour. L'Iran serait maintenant prêt à remettre les boîtes noires de l'appareil. Pour parler de l'absence de liens diplomatiques depuis 2012 entre le Canada et l'Iran, l'aigle de l'administration Harper, selon Jeremy Wilderman de l'Université Bath, cela nuit sérieusement aux Canadiens au Moyen-Orient, comme l'illustre la tragédie du vol l'Ukrainian Airlines. Le Canada est perdant en restant ainsi isolé. Et plus tôt cette semaine, Aurel Brown de l'Université de Toronto y est allé d'une charge à fond de train contre le gouvernement iranien. La mort de tant de civils, principalement des Iraniens, démontre la faiblesse et l'incompétence du régime, ainsi que son mépris impitoyable pour la sécurité de ses propres citoyens. Eh oui, c'est fait, le chat est sorti du chapeau. Ce qui se tramait en coulisses depuis plus de 6 mois est enfin annoncé. La frondeuse pour certains députés indépendantes de Glengarry, Prescott Russell, dans l'est de la province de l'Ontario. Pour d'autres, Amanda Simard a pris sa décision. Elle a fait le saut cette semaine, madame, monsieur, chez les libéraux. S'y attendait depuis très longtemps. Lors de son point de presse, elle a dit, je cite, « Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été fiscalement responsable, socialement progressiste et pragmatique. Cependant, cette nouvelle transfuge ne fait pas l'affaire de tout le monde. Une partie de l'exécutif de l'association libérale locale menace de démissionner. » L'ancienne ministre de l'Éducation, Mitzi Hunter, candidate à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario et députée de Scarborough, Gilwood, se présente comme une voix d'expérience, mais aussi de changement pour le parti. Sabine Soumar est responsable des communications du bureau de Mme Hunter, sera à nos micros en duplex dimanche prochain. Vendredi, Mme Mitzi Hunter a lancé sa plateforme pour les Franco-Ontariens. Parmi les faits saillants de son programme, réformer la loi sur les services en français, améliorer l'accès aux services et programmes en français dans toute la province, construire des écoles et des centres culturels, financer les médias francophones et les organismes des arts et de la culture. Enfin, s'assurer que les espaces provinciaux, comme les parcs et les espaces de loisirs, soient bilingues. Madame, chère Madame Hunter, est-ce que ce sont vos priorités uniques pour la francophonie de l'Ontario en 2020? Voilà la question, enfin une de mes questions, que je poserai à Sabine Soumaré, responsable des communications du bureau de Madame Hunter. La semaine prochaine, elle sera à nos micros en duplex, à ne pas rater. Et oui, après le jeudi noir qu'ont vécu les Franco-Ontariens en novembre 2018, avec le démantèlement du commissariat aux services en français, Kelly Burke, juriste, et fonctionnaire du gouvernement de l'Ontario est nommé nouvelle commissaire au service en français. Réaction mitigée de la part des auditeurs et francophones de la province. Beaucoup pensent qu'elle ne sera pas totalement indépendante. Question à suivre. Le mariage homosexuel en Suède et au Danemark a réduit de près de moitié le nombre de lesbiennes et d'hommes gays décédés par suicide. Voilà, très intéressant. Sujet qui fait polémique dans le monde du cinéma. C'est du jamais vu depuis 73 ans que le Festival de Cannes existe. Spike Lee entre dans l'histoire en tant que président du jury du Festival de Cannes 2020. Originaire de Brooklyn, Spike Lee est un habitué de la croisette. Spike Lee est un cinéaste afro-américain controversé et beaucoup de Français sont contre sa nomination en tant que président du Festival de Cannes 2020. On s'en souvient de son boycott au Festival de Cannes en 2016 en cause de l'absence de représentants des minorités parmi les nominés dans les 4 catégories d'acteurs. Live from London, décision historique qui intervient après plusieurs jours de crise à Buckingham Palace. Et oui, la reine a tranché, le prince Harry et son épouse Meghan renonceront à leur titre d'altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics. Ils ne sont ailleurs, ils se sont ailleurs engagés à rembourser certaines dépenses à passer. Les offres d'emploi surprenantes reçues par le prince Harry et Meghan Markle, madame, monsieur, c'est à suivre sur les médias, les réseaux sociaux, incroyables. Vont-ils devenir des travailleurs comme les autres? Après avoir annoncé se mettre à distance de leurs obligations royales, le prince Harry et Meghan Markle réfléchissent à leur nouvelle vie professionnelle. Nous avons même une amie qui connaît très bien la princesse Markle à Toronto. Elle réfléchit sérieusement avant de passer à la radio. On verra bien. Le Mexit passera-t-il par le Canada? Près de trois quarts des Canadiens ne veulent pas payer pour les coûts associés au séjour du prince Harry et de son épouse au Canada. Tout va bien. L'humeur de Linda a déjà des bons plans, des bons boulots aussi pour le duc et la duchesse de Sussex. Linda Giguère, que nous saluons chaleureusement, est journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Chaque mardi et jeudi, elle décortique les mots et les expressions de la langue française dans une chronique 100% francophone sur TV5 Monde. À toi, Linda Giguère.
Ah mon Dieu, moi ce soir, vous savez, moi, être comme tous les Canadiens... Je me trouve dans un état de fébrilité extrême. Ah. Ben oui, vous savez qu'on attend de la grande visite. Le prince Harry et son épouse Meghan vont s'installer chez nous.
Ah oui, c'est vrai.
Alors imaginez l'effervescence qui règne au Canada. Oui, maman. Oui. Quoi? Tu l'as vu? Meghan? Ah, il faut que je te laisse, maman, là. Je travaille. Oui. Ah, tu me vois. Bisous. Il paraît que Justin Trudeau ne sait plus où donner de la tête. Le téléphone n'arrête pas de sonner. La presse du monde entier veut savoir s'il va payer ou pas pour la sécurité du couple royal. Et tu parles d'une bad luck quand même. Ça va coûter la peau des fesses, cette affaire-là. Et les contribuables canadiens ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas verser une scène pour ça. C'est pas parce que la reine a sa tête imprimée sur nos pièces que c'est à nous autres de raquer pour la sécurité de ses petits-enfants quand même. Alors Justin consulte. C'est une patate chaude là qu'il a dans les mains. Le Canada a des liens étroits avec le Royaume-Uni. Il fait partie de l'ancien empire colonial. C'est une monarchie constitutionnelle qui a pour chef d'État la reine Élisabeth II, même si dans les faits, elle a délégué son pouvoir. Mais c'est touché comme question. Alors, Justin réfléchit. En début de semaine, il a discuté avec le premier ministre de la Colombie-Britannique où le couple déserteur pourrait s'installer. Le premier ministre de Colombie-Britannique dit qu'il est excité par la perspective. Ça indique, selon lui, écoutez, que nous, Canadiens, nous sommes des gens bons et gentils. C'est cute, hein? Il serait même prêt à aider Harry et Meghan à trouver une job. Parce que c'est ça. L'autre question, bah oui. Comment Meghan et Harry vont-ils nourrir Archie? Payer la nounou? Pourquoi pas une fille au père anglaise? Ils veulent travailler, ils veulent être indépendants. Ben, Meghan pourrait reprendre sa carrière d'actrice. Elle a vécu 7 ans à Toronto pour son boulot. Et sa meilleure amie, Jessica Mulroney, est canadienne. Harry, lui, ben, beaucoup le voit comme le prochain gouverneur général du Canada. Autrement dit, le représentant de la reine poste. Il fut un temps occupé par une certaine Michael Jean. Ça vous parle, ça, Mohamed?
Ex-secrétaire général de la francophonie.
Exactement. 60% des Canadiens sont favorables à la nomination de Harry comme gouverneur général. C'est un peu comme si le Mexit avait réveillé une sorte de monarchisme dormant au Canada. Mais c'est pas le cas au Québec, une province francophone, où, comme l'a dit le chef du Bloc québécois, la monarchie, c'est le symbole de la conquête pour les Québécois. C'est le symbole d'une volonté d'assimilation. L'occupation par les Anglais... Après la défaite de la France, il y a très longtemps, en a traumatisé plusieurs. Alors, Harry, si je peux me permettre, on peut se tutoyer, on est cousins. Oula. Harry, prends des cours de français. Donne l'exemple. Parce que si jamais tu devenais mon gouverneur général, ben, je voudrais que tu puisses me représenter en français, s'il te plaît. Merci.
Merci beaucoup, Linda, la princesse de TV5. Bon, merci à vous.
Moi, ça.
C'est vous.
4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 30%. France 24, c'était un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
CIUT 89.5, Toronto.
De masque pour te déchirer la tête. Sergent Marcus. Sergent Marcus au commande du Big Tempo.
100% hip-hop R&B.
Va monter ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs.
Nous avons des soldats du micro qui sont en studio. Nous allons les recevoir. C'est bien sûr le Reflex qui est là aussi et surtout CTN All Stars. Alors, je vous donne, nous allons t'écouter justement en featuring avec Fari. C'est au bout de la route. Et écoutez quelqu'un qui a des accents très européens dire des choses très africaines, j'allais dire très béninoises, au sujet de Ouida. C'était Glerwe, nous ouvre tes
oreilles. Hommage à tous les Glerwe Vidjidji, voilà.
Yes, tranquille. Écoute, c'est Yo vous donne, c'est du slam sans
cesse. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Sur le thème, une histoire à raconter. La 18e édition du mois de l'histoire des Noirs s'inscrit dans le devoir de mémoire en offrant un regard éducatif sur l'histoire. Ne manquez pas une émission spéciale avec Peggy Civil, PDG, entrepreneur, coach au Civil Communications qui nous présentera la programmation de nos amis qui célèbrent l'histoire des Noirs au Canada et en grand dans la région de Gatineau, Ottawa, dimanche prochain en duplex. Et du 2 au 23 février, 29e édition du mois de l'histoire des Noirs à l'antenne ayant pour thème Ici et maintenant, l'édition 2020 du mois mettra à l'honneur des jeunes, des artistes, des agents, des agentes de changement, des événements et aussi des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs, la beauté de ces cultures et de ces traditions. Invité spécial pendant le mois, Dr Amadou Ba, professeur d'histoire africaine à Nipissing University à North Bay en Ontario. Il a publié un livre intitulé « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada » sorti fin 2019. Que vous inspire le mois de l'histoire des Noirs ? Vous voulez en savoir plus ou vous souhaitez vous impliquer dans la production de nos émissions spéciales du mois de février? N'hésitez pas à planifier une rencontre ou un appel téléphonique avec l'équipe en écrivant popourri@cut.fm. Mois de février 2020, mois de l'histoire des Noirs, un rendez-vous à ne pas rater à l'antenne de CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Émission en duplex, madame, monsieur, j'espère que tout va bien chez vous à Toronto, Canada, Montréal, où nous attendent nos invités. J'aimerais vous parler de ce thème de la nuit des idées. Et oui, c'est très très populaire, hein, plusieurs pays, 90 pays en tout, célèbres sur les 5 continents. Et oui, à Toronto, cela se passe le 25 janvier des 19h jusqu'à 2h du matin au musée de l'art de l'Université de Toronto. Allez sur notre site pour avoir tous les renseignements. Je pense sur le site du Consulat général de France de Toronto, vous aurez aussi les renseignements. Être vivant, thème de la 5e édition, Nuit des idées. Fin janvier, dans 90 pays dans le monde, une nuit pour partager ses cultures, exprimer ses inquiétudes, débattre de sa vision du monde, alerter sur l'avenir des générations futures, éveiller les consciences, échanger sur des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. Une nuit pour être et rester vivant. Eh oui, pour les insomniaques comme moi. C'est votre nuit à rêver, madame, monsieur. Eh oui, c'est dans un lieu prestigieux de savoir, le Collège de France à Paris, que s'est tenue la conférence de presse pour l'annonce du thème de la 5e Nuit des idées, une initiative menée par l'Institut français de par le monde. Et justement, nous avons un extrait de cette conférence de presse avec Pierre Buller comme invité. Il est le président de l'Institut français.
C'est dans un lieu prestigieux de savoir, le Collège de France à Paris, que s'est tenue la conférence de presse pour l'annonce du thème de la 5e Nuit des idées, une initiative menée par les instituts français de par le monde.
Le thème de cette année, c'est Être vivant, qui ouvre la porte sur un grand nombre d'interrogations. Nous avons de nouveaux partenaires, de nouveaux participants, de nouveaux États dans lesquels est organisée cette Nuit des idées, qu'il s'agisse du Brésil ou de la Russie, qui n'en étaient pas partis, mais qui cette année s'y sont ralliés, de nouveaux lieux, hein, puisque nous passons de quelques 180 à 220 lieux dans le monde, répartis dans 90 pays.
Avec le thème Être vivant, la question écologique sera notamment très présente, mais également le questionnement au-delà de l'humain, de la vie en société ou encore, comme aux arts et métiers, le rapport à la machine.
On a intitulé la Nuit des idées aux arts et métiers le devenir machinique. Donc en fait, c'est le rapport de l'homme à la machine. Donc le fil conducteur, notre concept pour la Nuit des idées, c'était de questionner, sous tous ces aspects, le rapport de l'humain à la machine. À la manière, dans le sens où il va fabriquer des machines, mais la manière aussi dont on va pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est le premier fil conducteur. Et un deuxième fil conducteur, qui est aussi qui correspond au format de la Nuit des idées, c'est de faire intervenir des philosophes, des scientifiques, des artistes qui vont parler avec le public, discuter avec le public, puisque c'est un format très interactif. Mais on va aussi proposer des expériences, des expérimentations avec des installations artistiques, interactives.
La Nuit des idées se tiendra dans 90 pays sur 5 continents le 30 janvier 2020.
Et oui, le baiser de Nana Bush de l'auteur Drew Hayden Taylor, traduit en français par Eva Laverne, qui sera des nôtres dans un instant. Originaire de la Première Nation Ojibwe, Curve Lake, en Ontario, je connais bien, Drew Hayden Taylor a publié une trentaine de livres dans de nombreux genres, comme théâtre, roman, nouvelles, essais, littérature jeunesse. Plus de 25 de ses pièces ont été produites. C'est un homme touche à tout. Il réalise notamment des films, écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la radio. Il publie dans de nombreux journaux et revues. Il a passé les deux dernières décennies à voyager autour du monde et à le commenter d'une perspective autochtone. Si seulement on pouvait utiliser l'art ou encore la littérature pour changer les mentalités, pour rapprocher les peuples, pourquoi pas? Alors, est-ce un coup de... Un coup de force de la maison, des éditions Prise de Parole, on verra bien. Écoutons l'auteur en anglais lors d'un entretien à CBC, parce qu'on voulait absolument que vous entendiez sa voix. Drew Hayden Taylor, avant de passer à la traductrice de cette œuvre, Le baiser de Nana Bush, de l'auteur Drew Hayden Taylor.
I define success for myself as just being happy with what I am writing, what I have written, and hopefully down the road, what I will write. My name is Drew Hayden Taylor. My latest work is a collection of short stories called Take Us to Your Chief. They're sort of a combination of indigenous sci-fi. Why did I want to write this collection? Well, why not?
I'm a big fan of science fiction. And the thing I found very, very interesting is that if you go into the traditional teachings and stories of many indigenous cultures across Canada, you will find stories of star people coming down and interacting with people on Earth, or people from Earth going up into the stars. If you look at pictographs and petroglyphs, you see what could be imagery of aliens. And also, more interestingly, on a more of a satiric level, what people in North America have a better understanding of technologically advanced strangers suddenly showing up and taking over everything.
Et oui, très intéressant, très intéressant. J'aimerais bien la voir. Malheureusement, il ne parle pas français, je pense. Hein. Alors, notre invitée, elle est née à Montréal. Elle parle français, l'espagnol, l'anglais. Elle est traductrice et réviseur, linguistique et correctrice d'épreuves. Elle a une clientèle commerciale très diversifiée. Je vous invite à aller voir sa biographie. Finaliste au prix de traduction littéraire, John Glasso, en 2016. Elle a traduit plusieurs romans de l'anglais vers le français et publie à l'occasion en revue. Elle a étudié la musique et s'intéresse, entre autres choses, à l'environnement, à la spiritualité, au septième art, à la biologie et à la contre-culture et aux sciences sociales. Et oui, la traduction, c'est tout un art. Doit-on ou peut-on tout traduire, mot pour mot ou sens pour sens? Cet entretien est réalisé grâce à la précieuse collaboration de notre partenaire de la saison, les éditions Prise de Parole. Et oui, madame, monsieur, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir pour la première fois à nos micros Eva Laverne, qui est traductrice, réviseur pour... Le compte sans doute de beaucoup de maisons d'édition, mais là, ici, en particulier, on parle des éditions Prise de Parole. Bonjour Eva Laverne.
Bonjour Eric.
Et comment allez-vous? Bienvenue à CUTFM.
Merci, je vais très bien. J'espère que vous aussi.
Nous sommes dans un pays très chaud. On ne dira pas où, parce qu'on ne veut pas être dérangé par les paparazzi. Hein? On veut garder notre... je ne sais pas, on veut rester calme, très loin des caméras et des gens. Alors, c'est notre façon de faire durer le plaisir. Alors, c'est tout un plaisir hein, de lire ce roman fascinant sur une plage loin des tempêtes de neige du Canada. Est-ce que c'était difficile pour vous, Eva, d'accepter l'offre des éditions Prise de Parole quand on vous a demandé de traduire ce roman, surtout d'un auteur de Première Nation Ojibwe?
Mais c'était pas une question difficile du tout. C'était avec grand enthousiasme que j'ai... embarqué dans ce projet. Et, c'est un projet que je chérissais et que je caressais. J'étais très contente de mener de A à Z.
Oui. Alors, le baiser de Nana Bush, de cet auteur, Drew Hayden Taylor, madame, monsieur, aux éditions Prise de Parole, que je vous recommande personnellement. Rien ne se produit jamais dans la réserve Anishinaabe de Lac aux Loudres, sans donner tous les détails et le clou de ce roman. Parlez-nous un peu de fil en aiguille l'histoire racontée dans ce roman.
Bon, dans ce roman, il y a un personnage de la mythologie autochtone qui vient faire son apparition dans une réserve de l'Ontario et qui vient tout bousculer, tout chambouler l'ordre des choses dans cette réserve, et particulièrement dans une famille qui vit certaines difficultés avec un adolescent, avec sa mère qui travaille beaucoup trop, avec toutes sortes de personnes qui se posent des questions existentielles, ce qui est complètement normal. Et ce personnage mythique vient introduire un peu de magie au village et vient aider à résoudre des questions humaines d'une façon assez originale.
On sait que les relations entre les peuples autochtones et les Canadiens en général n'ont pas été très très faciles. On se rappelle de l'histoire de la réserve d'Oka, vous vous souvenez? Et il y en a eu tant d'autres, même en Ontario. Est-ce que ce roman retrace un peu l'histoire vécue et les réalités bien souvent difficile des Autochtones, et j'ai l'impression qu'à travers ce roman, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de réalité, je dirais même un peu frivole des fois, mais en même temps, le lecteur, la lectrice peut capter, en lisant ce roman, la triste réalité, la dure réalité des Autochtones dans ce pays.
Mais on peut la capter, mais ce que j'aime beaucoup avec l'œuvre de Drew Hayden Taylor, c'est que c'est seulement évoqué ou c'est seulement en filigrane dans son œuvre toutes ces difficultés, ces périodes de noirceur que beaucoup de personnes, certaines générations en particulier dans les Premières Nations, ont eu à traverser. Mais lui, il vient transcender ça avec beaucoup de beauté, en apportant, comme vous dites, de l'humour, en apportant une touche de magie ou de surnaturel qui vient nous amener à poser un regard neuf sur ces questions-là. Je veux dire neuf par rapport à la plupart des œuvres qui se font dans les courants d'écriture actuels autochtones. Et lui, il nous amène à les évoquer sans les renier, sans du tout les oublier, mais en nous montrant un exemple par ce personnage de comment on peut transcender.
Oui. C'est un roman puissant, à mon avis, fascinant, qui nous plonge au cœur des réalités des peuples autochtones. Comme j'aime à répéter à cette antenne, et les gens qui nous écoutent depuis 33 ans savent de quel bois je me chauffe. Je dis souvent, les Canadiens, les Canadiennes en général, méconnaissent la richesse des peuples autochtones dans ce pays. On compte actuellement 600 collectivités des Premières Nations au Canada qui représentent plus de 50 nations et parlent plus de 50 langues autochtones. Et il y a des auteurs et des talents merveilleux d'un bout à l'autre de ce pays. Comment et pourquoi avez-vous donc accepté de traduire ce roman? Quel est votre lien propre? Parce que c'est une des questions qu'une personne qui nous écoute en ce moment, qui est très très impliquée dans la communauté francophone du Canada et qui aimerait vous poser cette question. Quel est votre lien, s'il y en a, avec les peuples et les œuvres des Autochtones?
Avec leurs œuvres, c'est surtout une fascination. Mais le lien, on sait que chez la plupart des Franco-Canadiens, on a un lien profond qui est probablement même génétique. Il y a eu beaucoup d'ensauvagement, comme on disait, chez les colons européens. Donc, moi, j'en ai probablement dans ma famille. Même si je ne suis pas en contact avec la réalité des réserves, je l'ai seulement effleuré, j'ai seulement visité des communautés. J'ai à peu près le même rapport que la plupart des Blancs avec les powwows, certaines notions de spiritualité autochtone. Mais je trouve ça très inspirant. Mmh. Puis je pense que ça peut nous aider et nous servir d'exemple pour développer un lien avec la nature, avec l'environnement, avec notre humanité, avec notre humour, notre résilience, notre spiritualité. Je pense que c'est très bien que ça puisse passer à travers les littératures, à travers une tradition orale, jusqu'à nous. Et je pense qu'on est tous héritiers de ça. Si on vit au Canada, puis si on est un peu à l'écoute, on peut être héritier de ce beau bagage.
Oui. Et le baiser de Nanabouche, madame, monsieur, de Drew Hayden Taylor, traduit de l'anglais par Eva Laverne, qui est notre invitée du jour aujourd'hui. Et je remercie beaucoup notre ami Stéphane Cormier. C'est grâce à lui que nous avons fait cette découverte. C'est une richesse, je pense, parce que être traductrice à des œuvres littéraires, c'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, Eva?
Non, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. C'était un rêve d'enfance et voilà, je suis en train de le faire.
Si la chef Maggie tombe instantanément sous son charme, son fils Virgile est beaucoup moins enthousiaste. Aidé par son oncle Wayne, créateur d'une forme d'art martial autochtone, il tentera d'éloigner l'étranger de Lac-aux-Loudres et de sa mère. Et on dirait que les ratons laveurs veulent en faire autant. Drôle, profonde, lumineuse et remplie d'espoir, l'histoire est servie par l'incontestable talent de conteur et l'humour qui ont fait la renommée de Taylor au Canada anglais. L'édition originale anglaise Motorcycles and Sweetgrass, North Canada, a été finaliste au prix du gouverneur général. Je vous rappelle que cette œuvre est traduite par Eva Laverne, qui est notre invitée aujourd'hui. On voulait mettre un peu les gens dans l'ambiance de ce roman. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Bellos, il est professeur de littérature française à Princeton University, qui a toute une réputation dans la traduction et qui a dit, je cite, « La traduction est un art subtil qui n'a rien à voir avec du mot à mot. » Êtes-vous d'accord avec son propos? Est-ce que c'est le sens de la traduction qui passe avant le mot à mot?
Mais oui, je pense que comme vous disiez en introduction, l'objectif est de traduire 100%. Donc, ça reste toujours l'objectif premier. Mais moi, je sais que j'ai une tendance, par admiration pour l'auteur, à coller en même temps sur la forme de chaque phrase, sur sa structure, sur son rythme le plus possible, qui est, chez Taylor, un rythme inspiré du conteur qu'on peut imaginer autour d'un feu en train de transmettre une histoire oralement. Donc, je pense que la forme est à peu près aussi importante que le sens.
Alors, madame, monsieur, je vous rappelle, vous pouvez aller sur notre site www.popourichaud.com pour avoir tous les renseignements sur ce que fait Eva Laverne, mais aussi les éditions Prise de Parole qui vous présentent le baiser de Nana Bush. Vous pouvez commander des copies, aller sur le site de Prise de Parole, notre partenaire. C'est très important, je pense, pour les auditeurs qui sont à l'écoute, au lieu d'écouter un entretien, mais aussi d'avoir accès à ce roman, à ces différents livres que présentent les éditions Prise de Parole, parce que c'est important aussi d'appuyer nos auteurs et aussi les gens qui sont associés à cette œuvre, n'est-ce pas, Eva?
Oui, c'est très important de faire connaître cette œuvre. Moi, j'espère que le public francophone va pouvoir profiter de toute l'œuvre de M. Taylor.
Alors, il y a des critiques quand même très favorables là, dans les médias. Je lis une des critiques. Chez Prise de Parole, on a craqué pour le baiser de Nana Bush alors qu'un bel étranger fait irruption dans une réserve Anishinaabe et fait flancher le cœur de la chef, ce qui ne plaira pas à tous. L'humour et le don de conteur de Drew Hayden Taylor font de cette histoire où art martial autochtone, raton laveur, vengeur et baiser foudroyant se côtoient un roman puissant. C'est marrant comme critique, n'est-ce pas, hein? Alors, j'ai aussi capté, avec votre permission, bien sûr, personne ne nous écoute, il y a des gens qui apprécient vos talents de traductrice. Et si vous permettez, je vais lire ce qu'une personne que vous connaissez sans doute, de l'Université Laurentienne, a écrit. C'est avec un grand plaisir que je recommande Eva Laverne à titre de correctrice d'épreuves. J'ai eu le plaisir de l'engager pour la révision de mon livre récemment publié. C'était la deuxième fois que je confiais un tel travail à une professionnelle. J'ai été très impressionné par la qualité de son travail. Il y avait des conditions très précises à ce travail en termes de temps et d'exigence d'édition, de mise en forme et de correction. Elle a respecté toutes les conditions et bien davantage avec une très grande attention aussi soignée que je ne l'aurais fait moi-même. Son travail est très professionnel et c'est pour cela que j'ai transmis ses coordonnées à un collègue qui cherchait justement une personne fiable et respectueuse pour travailler à son manuscrit. Il a lui aussi remarqué la très grande attention et l'ardeur qu'elle mettait à la révision de son livre. J'ajouterai enfin que ses tarifs sont très raisonnables pour un travail d'une telle qualité. Cordialement, Monique Benoît à l'Université Laurentienne. Eh oui, c'est bravo. Bravo, hein?
Merci. Mais j'ai aussi aimé travailler avec des universitaires. Ouais. C'est toujours important de voyager dans différents univers. Mais... Et c'est comme ça que j'apprends, que j'alimente ma curiosité.
Oui. Alors, vous avez d'autres projets en cours que vous pouvez nous lancer en scoop. Il n'y a personne qui nous écoute en ce moment. Hein? Vous avez des projets en scoop?
Mais pour ceux qui nous écoutent, il y a un projet qui est un autre roman de Drew Hayden Taylor, cette fois-ci spécifiquement pour le public adolescent. Donc, ça va être aux éditions David, une maison d'édition d'Ottawa. Et moi, j'ai l'honneur et le plaisir de continuer avec l'œuvre de Taylor. C'est un univers qui me plaît complètement. Donc, si le baiser de Nana Bush s'adressait un peu aux grands-enfants en nous, par sa forme, tout ça, par son humour, par sa frivolité peut-être, cette fois-ci, c'est carrément pour un lectorat adolescent. Et c'est encore aussi, aussi fantaisiste et encore plus proche de la science-fiction cette fois-ci.
Dans ce monde où on rejette la différence, il y a tout un problème hein, sur l'interculturalité au Canada, l'immigration, et y compris le peuple autochtone aussi, hein, où les gens remettent en question leur existence dans notre pays par certains groupes politiques. C'est tellement important de bien comprendre, de cerner ce peuple autochtone, ces peuples autochtones, et à travers la littérature, j'espère que les gens, les auditeurs, vont capter un message pour bien comprendre. D'ailleurs, je dis toujours, il faudrait peut-être... Souvent, mes amis francophones que je respecte et que j'aime à en mourir me disent toujours, me parlent toujours des deux peuples fondateurs, les Anglo et les Franco. Alors, je leur dis, alors, où se trouvent les Autochtones dans tout ça, les Premières Nations dans tout ça? Peut-être au niveau de l'éducation, il faudrait commencer à apprendre l'histoire des Autochtones. Vous êtes d'accord, Eva?
Moi, je suis complètement d'accord et je suis très exaltée de voir qu'il y a autant d'engouement là ces dernières années pour des écritures autochtones, pour leur culture en général. Donc, s'ils peuvent être plus visibles sur toutes les scènes, je pense que c'est une très bonne chose.
Alors, vous êtes une personne qui aimait voyager autour du monde, n'est-ce pas? Vous aimez découvrir, jongler avec les mots, mais aussi parlez-moi un peu de votre... c'était pas prévu dans la programmation, mais vous êtes tellement intéressante quand on parle de votre biographie. Vous vous intéressez à l'environnement, à la spiritualité, au septième art, à la biologie. Est-ce que ça, c'est... inné en vous ou bien c'est une découverte en progression lors de votre vie?
Mais c'est les deux, je dirais. Oui, c'est inné, mais en même temps, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où il y avait des livres, toutes sortes de livres. Puis vous parliez d'éducation il n'y a pas longtemps, puis moi, je pense que ça commence très tôt. La curiosité est une vertu à mon sens, puis on devrait la stimuler chez les jeunes, chez les enfants, on devrait avoir toujours des livres dans une maison.
Oui. Et vous-même, vous vivez en pleine nature, si je ne m'abuse?
Oui, ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté Montréal, avec pas vraiment d'intention de revenir dans la grande ville. Je sais qu'il y a toutes sortes d'avantages à la ville aussi, mais je suis très contente de m'ancrer encore plus dans les saisons, dans la nature.
Oui. Eva Laverne, Madame Monsieur, une traductrice, réviseur à surveiller sur nos ondes. J'espère vous avoir peut-être lors du mois de la francophonie pour parler de traduction littéraire ou autre, si cela vous intéresse. Et de temps en temps, les micros sont là, si cela vous intéresse de passer pour annoncer vos projets. Le baiser de Nana Bush de Drew Hayden Taylor et vous avez la traduction, Madame, Monsieur, la version française de notre invitée Eva Laverne. Je vous remercie et je vous envoie des baisers des Antilles entre le baiser de Nana Bush, les baisers des Antilles et je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se parle très prochainement, j'espère.
Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne lecture.
Au revoir, Eva. Voilà, tout le monde vous applaudit. Appel à candidature de la chaire de recherche du Canada en études des minorités. Bourse de maîtrise disponible de 5 000 $ à 15 000 $, Université de Waterloo, pour une durée d'un an. Une bourse de doctorat est aussi disponible entre 5 000 et 25 000 $ par année pour une durée de 4 ans. La demande d'admission et le dossier de candidature sont à soumettre pour le 1er février 2020, donc il ne vous reste pas beaucoup de temps en vue d'une admission à l'automne 2020 et pour le 1er juillet 2020 en vue d'une admission à l'hiver 2021. Et je vous rappelle que dans un instant, nous allons accueillir Frédéric Boiron, sociologue et professeur, responsable des débats d'idées et blogueur au journal Le Devoir, La Presse. Il a dirigé l'implantation d'une ONG en Haïti et il est l'auteur du livre « Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit, 10 ans après le séisme d'Haïti, et nous, dans tout ça, à ne pas rater, madame, monsieur, après les grands titres de RFI, et nous, dans tout ça, avec Frédéric Boiron.
Son nom est un V, oh, eh, oh, eh, oh, eh. CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle qu'aujourd'hui se passe une messe de commémoration que j'ai annoncée d'ailleurs la semaine dernière, organisée par la communauté haïtienne de la région de Toronto. Je vous invite d'aller sur notre site www.poporichaud.com pour avoir tous les renseignements, parce que nous sommes actuellement quelque part très très loin de nos documents, voilà, à Toronto. Je vous salue. Et puis la députée Mitzi Hunter, qui s'est engagée à améliorer le bilinguisme en Ontario avec sa politique pour les franco-ontariens. Il y a même une plateforme qu'elle a lancée vendredi dernier. On en parle avec la responsable des communications de la députée Mitzi Hunter, qui se lance dans la chefferie, à la chefferie plutôt, du Parti libéral de l'Ontario. C'est à suivre absolument. Et oui, en préparation de l'émission de dimanche dernier, nous avons reçu beaucoup, beaucoup d'appels de réactions sur Haïti 10 ans après le séisme. Les points de vue se divergent hein, dans la communauté francophone et surtout les auditeurs d'origine haïtienne. Beaucoup trouvent que l'aide internationale a permis au pays de se développer concrètement. D'autres pensent qu'il faut avoir plus de redevabilité, de comptes à rendre au gouvernement canadien et aux autres bailleurs de fonds. Je vous rappelle que Haïti reçoit de l'aide des bailleurs de fonds internationaux depuis le tremblement de terre de 2010. Comment cette aide est utilisée? C'était ça la grande question, et peut-être on aura l'occasion d'en parler avec Frédéric Boiron. Et puis je vous rappelle brièvement, nous avons appris une triste nouvelle. RFI a appris la disparition de Patrick John Boeuf, correspondant à Mexico. Il est décédé samedi le 11 janvier dans la ville de Cuernavaca, des suites d'une longue maladie. Né en Suisse en 1956, diplômé d'un master en droit public et constitutionnel, Patrick s'est installé au sud de Mexico en 1998, où il a commencé à collaborer avec Radio France Internationale. D'abord en espagnol, puis en français, il assurait les correspondances depuis plus de 20 ans. Alors, la direction de CUTFM, nous nous associons à nos confrères de RFI, la peine de son épouse, de ses amis. On va manquer cette grande voix de Radio France Internationale. Dans un instant, on vous retrouve avec le sociologue Frédéric Boiron, mais pour l'instant, le point de l'actualité de Radio France Internationale.
Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Un nouveau point sur l'information avec Andréane Mellard, et à la une, la conférence internationale à Berlin qui ouvre ses portes dans quelques heures.
Une conférence sur la Libye. L'idée est d'inscrire dans la durée le cessez-le-feu décrété cette semaine et pour le moment respecté. Cessez-le-feu entre le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj et les forces du maréchal Haftar qui assiègent Tripoli depuis le mois d'avril. Donc un cessez-le-feu respecté pour le moment, je vous le disais, même si les forces du maréchal Haftar ont bloqué hier les principaux terminaux pétroliers situés dans l'est de la Libye, c'est-à-dire dans les zones qu'ils contrôlent. La NOC, la compagnie pétrolière libyenne, parle déjà d'un manque à gagner de 55 millions de dollars par jour. Une situation pas tenable, car les recettes pétrolières sont l'affaire de tous, nous dit Philippe Sebi-Lopez, spécialiste des enjeux énergétiques et fondateur du cabinet Géopolia.
Personne ne peut s'en passer. C'est la seule recette en devise de l'État libyen et donc de tous les Libyens, Haftar compris. Donc c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas durer très longtemps et que c'est précisément bon pour une question de rapport de force dans la perspective de la conférence, ou éventuellement de faire que cette conférence aborde la question précisément de la redistribution pétrolière. À voir. c'est toujours Haftar qui détient le contrôle à travers les milices qui sont chargées de la sécurisation des installations pétrolières dans l'Est. Et donc, c'est lui qui a, d'une certaine façon, le moyen de donner le là en matière de production et d'exportation pétrolière. Donc, il montre sa force, au fond.
Est-ce qu'on peut imaginer, on pourrait imaginer que Haftar se décide à commercialiser lui-même le pétrole sans passer par la NOC?
Non, ça n'a jamais été accepté. Ils avaient déjà essayé, les États-Unis avaient immédiatement considéré que les exportations de pétrole libyen devenaient de la contrebande dès lors que c'était pas fait par la NOC. Et les seuls tankers qui avaient pu charger du brut avec cette formule, finalement, étaient considérés comme des bateaux pirates. Donc ça s'est arrêté immédiatement.
Des propos recueillis par Olivier Roger.
À la une également, cette journée de mobilisation hier au Liban, particulièrement violente.
Un nouveau genre de manifestation marquée par des violences près du Parlement dans le centre de Beyrouth, des affrontements entre des manifestants et des forces de l'ordre. 220 personnes ont été blessées. Le Liban, plus de 3 mois maintenant après le début du mouvement de contestation dans le pays.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Offre thématique sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Des toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Oui, dans un instant, madame, monsieur, nous allons accueillir l'auteur du Au nom des peuples, du peuple et du fric, du Saint-Esprit, et de Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale, regard critique sur l'état de nos démocraties. Et je vous rappelle que beaucoup de médias parlent de ce monsieur, c'est un personnage, hein. Et sur son dernier blog, il vient d'écrire 10 ans après le séisme d'Haïti, et nous dans tout ça, il s'appelle Frédéric Boiron, il est auteur, un auteur percutant, sociologue, professeur, personnage décapant pour certains. Et parmi une de mes questions, parce que tous les médias se raffolent de sa présence, c'est pour quand sa propre radio, hein, pour les francophones, surtout issus de la diversité? On en parle dans un instant.
Le 12 janvier, un séisme de magnitude 7,3 a violemment frappé Haïti.
A major earthquake measuring 7.3 on the Richter scale.
ضرب جزيرة هايتي زلزال عنيف.
يبقى هايتي لن تعرف تعمل.
قريبة هايتي اختطفت.
هايتي stand up. Come back. Raise your flag high. Red and blue. Show the Haitian pride.
Qui ça se fait pas ici? Toujours frappé, allait toujours arriver. C'est pas mauvais vent, cyclone, c'est l'école qui a tombé quand des mains étaient passées. Oh, mon Dieu, ne pas qu'on s'en pour faire. Aidez-nous trop, douleur. Et nous frapper
malais. On a demandé pour qui c'est nous. On a demandé pour qui c'est nous.
On a demandé pour qui c'est nous. Qui va jeter une chance sur les vents.
Résistance nous vous. On veille au bout pour tout taper
changer la paix tout côté, la paix sans qu'elle saute.
Mais qui est belle ou près sous gars, toujours en souhait.
Et oui, notre invité, madame, monsieur, il est auteur de Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit et de Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale, regard critique sur l'état de nos démocraties. Et il est sociologue, détenteur d'un MBA. Il a développé une expertise en stratégie d'affaires pour les organismes à but non lucratif. Et il est professeur, sa firme Solutions Feedback Actif offre des services de gestion de la gouvernance, de restructuration, de mentorat, de planification stratégique pour les ONABL et les ONG. Il a passé 18 ans au YMCA de Montréal, pendant lesquels il a été directeur général des centres communautaires Notre-Dame-de-Grâce et Hochelaga-Maisonneuve. En 2000, l'an 2000, il est retourné dans son pays d'origine pour y fonder le YMCA d'Haïti. Il est citoyen engagé, dit-on. Il a siégé au conseil d'administration de la Dauphinel, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Son parcours professionnel lui a amené à séjourner dans plusieurs pays, dont la Chine, la République dominicaine, la Guinée, la France, l'Espagne et le Nicaragua, ce qui a alimenté ses réflexions sur le développement humain et la démocratie. Il a publié plusieurs articles sur ces sujets. Il est l'auteur de « Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit » et de « Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale », deux livres chocs sur l'état de la démocratie dans le monde. Mais tout d'abord,
une conférence sur la question de la corruption en Haïti, une conférence que j'ai présentée au mois de juin à Paris, qui a eu énormément de succès parce qu'on parle beaucoup de corruption en Haïti, mais on ne sait pas trop qui sont les corrompus, qui sont les corrompteurs et où est passé l'argent et de quel argent on parle. On parle de Petro-KDP.
Et oui, il parle français, créole, haïtien et l'espagnol. Mesdames, messieurs, accueillons pour la première fois Frédéric Boiron, sociologue. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci beaucoup, merci de l'invitation.
Oui, cela nous fait plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes un homme décapant, d'après les critiques. Expliquez-nous justement pourquoi les médias vous voient comme un être un peu hors commun.
Ben, c'est eux qui me voient comme ça, moi je ne crois pas l'être. Je crois que, effectivement, je dis des choses que les autres n'osent pas dire, mais ce n'est tout simplement pas parce que ces vérités-là n'existent pas. Donc, oui, on dit que je suis décapant, infréquentable, et que je dis des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, particulièrement en Haïti, quand j'ai prononcé des conférences là-bas, les gens étaient un peu surpris parce que il reste quand même que c'est un pays qui a vécu pendant 30 ans sous la dictature et on a pris cette habitude d'être un peu prudent dans ce qu'on dit. Mmh. Et moi, je n'ai pas cette prudence-là. J'ai une éthique dans ce que je dis. Je fouille mes informations, je n'accuse pas pour rien, mais cependant, je dis ce que je découvre, je dis ce que je pense, sans retenue. C'est sûrement ça qui étonne, mais c'est parce que je dis tout haut, finalement, ce que plusieurs savent ou ce que plusieurs pensent tout bas.
Et moi, j'irai un peu plus loin, parce que ça fait 33 ans, plus de 33 ans que je suis dans ce métier. Quand un homme noir ou bien une personne de différentes origines, d'une minorité raciale, ose dire à haute voix certaines vérités, il est tout de suite traîné, on est là prêt à le crucifier. Or, Denise Bombardier et tant d'autres animateurs de race blanche disent des choses et alimentent même de la haine dans leurs émissions de radio. Ça passe sous silence, n'est-ce pas?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'on me catalogue parce que je suis noir. Je pense vraiment que ce qui étonne, c'est tout simplement que le propos que je tiens et le style aussi avec lequel j'écris, je pense que ça aussi, ça fait une différence. J'écris, en fait, je dis souvent que je n'écris pas, je parle. Donc, quand on me lit, on a l'impression de m'entendre. C'est ce que je recherche comme démarche. Et quand on entend les choses plutôt que de lire, un sociologue, en général, moi, je dis toujours à mes collègues, vous écrivez pour vous comprendre entre vous. Moi, j'écris pour être compris par les autres. J'écris comme j'aurais aimé qu'on me parle, comme un adulte qui est renseigné, mais peut-être pas suffisamment. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a ce regard critique sur moi. c'est pour le propos, l'angle sur lequel je vais aborder les choses, mais aussi pour le style d'écriture. C'est un style qui est assez particulier, je l'admets, et je le perfectionne aussi. Je le perfectionne, j'aime ce style-là, parce que ce que j'aime faire en réalité, c'est parler.
Et nous, on aime bien votre style, restez comme vous êtes. Alors, 10 ans de cela, on était à la radio avec nos confrères de Radio France Internationale pour monter toute une opération médiatique pour sensibiliser les gens, les auditeurs en Amérique du Nord sur cette catastrophe qui a secoué Haïti il y a 10 ans de cela, ce séisme. Et vous, vous avez écrit justement pour peut-être commémorer ces 10 ans. Blog qui dit 10 ans après le séisme d'Haïti et nous dans tout ça. Et justement, la semaine dernière, on a fait une émission spéciale et parmi les questions, les gens posent beaucoup de questions sur l'aide internationale. A-t-elle permis au pays de se développer concrètement depuis 10 ans? On sait que Haïti reçoit sans discontinu l'aide des bailleurs de fonds internationaux. Comment cette aide est-elle utilisée? Pourquoi un État fragile tel qu'Haïti ne parvient-il pas à imposer ses propres priorités de développement? Il y a des remises en question sur la coopération internationale en Haïti. Certains pensent que c'est un échec total. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans votre blog 10 ans après le séisme d'Haïti et nous dans tout ça? Que voulez-vous dire dans nous dans tout ça?
Ben, d'abord... J'ai publié 3 articles autour du 10e anniversaire de la commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre. Et je pense que quand a eu le tremblement de terre est arrivé après les événements, je pense que chaque citoyen a eu à se remettre en question par rapport à, qu'il soit haïtien ou pas, hein, tout le monde a dû se remettre en question par rapport à sa perception des choses, sa perception de sa propre vie, son petit confort et tout. J'ai voulu parler de ça. Mais j'ai aussi voulu parler dans un deuxième texte qui porte sur les casques bleus qui sont allés en Haïti et qui ont abusé de leur pouvoir par rapport, entre autres, à la violence faite aux femmes.
On en a parlé de ça la semaine dernière, oui.
Voilà, il y a plusieurs filles qui ont été violées, il y a plusieurs cas. On a eu aussi, j'avais écrit aussi là-dessus, sur les cas de Oxfam, où les employés d'Oxfam faisaient venir des prostituées, où ils plaçaient les personnes qui devaient recevoir de l'aide dans une situation de se prostituer en échange de l'aide. Ces choses-là, il faut les dire. Il faut absolument les dire. Spécifiquement par rapport à l'aide internationale, dans un des textes que j'ai écrit, j'ai tout simplement pris le cas, j'ai fait une étude de cas, si vous voulez. J'ai pris un contrat qui a été passé entre la Croix-Rouge et l'ACDI et donné à SNC-Lavalin, une entreprise québécoise de très haute réputation.
Qui ne connaît pas cette fameuse...
Voilà, d'accord. Et SNC-Lavalin a eu à faire au nom de ces deux partenaires-là, donc la Croix-Rouge et l'ACDI, a donné un contrat pour la construction de 7500 abris temporaires qui ont été construits par Maison La Prise à Montmagny, au Québec. Alors, ce que j'essaie de démontrer là-dedans, c'est que normalement, la Croix-Rouge peut dire qu'elle a donné, et l'ACDI peut dire qu'ensemble, ils ont donné une aide de 28 millions de dollars à Haïti. Alors que ces 28 millions de dollars ont été dépensés à Montmagny et non pas en Haïti. Donc, quand on entend ces chiffres-là de dire que les Clinton avaient à gérer en Haïti 10 milliards de dollars pour la reconstruction en Haïti, je dis non, c'est faux. C'est faux, il n'y a pas eu d'argent qui est rentré en Haïti. Quand on fait de l'aide internationale, on achète de la nourriture aux États-Unis, au Canada, en France, qu'on transporte en Haïti. On ne fait pas d'impact dans l'économie du pays. Donc, les maisonnettes qui ont été construites par Maison La Prise ont non seulement été faites au Québec. Ce que je dénonce surtout, c'est que la Croix-Rouge avait demandé que la durée de vie du produit ne dépasse pas 5 ans. Alors, c'est quand même débile qu'on donne une aide et que sur cette aide-là, on fasse une clause d'obsolescence programmée. C'est quand même fou qu'on dise, on va vous donner quelque chose, mais dans 5 ans, il va falloir qu'on vous redonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? on n'est pas dans l'aide, on est dans la charité. Et cette charité-là, ce n'est pas quelque chose qui a un impact sur le développement économique. Bon, voici ce que je pense qu'on aurait dû faire. On aurait dû amener les travailleurs haïtiens à Montmagny pour leur montrer comment faire des maisons préfabriquées, etc., et qu'on puisse développer cette industrie-là en Haïti. Mais c'est pas ça qu'on a fait, parce que l'aide internationale n'est pas paramétrée pour aider les pays qui sont les pays sous-développés. Elle est paramétrée pour avoir un impact dans l'économie du pays donateur. Et ce qu'on a vu en Haïti après le tremblement de terre, c'est la mise en application de ces principes-là, et ce sont des principes universels. Il n'y a pas seulement le Canada qui le fait. Il y a ECHO, qui est l'équivalent de l'ACDI en Europe, et il y a l'USAID, USAID, qui fait exactement la même chose. Donc, je veux dire, arrêtez de dire que Haïti a reçu de l'aide, c'est faux. Haïti n'a pas été aidé. Les pays donateurs ont développé leur propre industrie avec ça.
Et ça, ce que vous dites là, c'est tellement important parce que j'ai l'impression qu'on se fait mener en bateau, c'est le cas de le dire, hein, par toutes ces grandes organisations, y compris par les casques bleus maintenant, parce que ça, c'est une vraie crise, hein, de voir ces enfants dont les papas sont américains ou ailleurs, ou d'autres, je pense, brésiliens aussi. Hein, il y a des Brésiliens impliqués.
Beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Colombiens.
Et je pense que il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de rencontre entre ces femmes victimes d'abus sexuels et l'ONU, hein.
L'ONU a consenti à verser aux femmes qui avaient les moyens de porter plainte. L'ONU a versé une indemnité à chacune de ces femmes de $300. C'est quand même incroyable que quelqu'un aille dans un pays, viole un enfant, ce sont des fillettes qui ont été violées, et résultat de ça, il y a des enfants qui naissent, et en échange pour, en fait, ce qui est finalement l'ONU consent à acheter des services sexuels pour les casques bleus, et malgré les conséquences, et l'ONU verse $300 à ces femmes. C'est quand même incroyable de participer, qu'une organisation comme celle-là participe à un crime aussi odieux.
Est-ce que vos propos, justement, vos blogs ont une certaine résonance chez les médias, je ne sais pas moi, ces organismes dont vous parlez, est-ce que les gens vous prennent au sérieux? Parce que c'est quand même très grave de voir la façon dont ils pensent aider Haïti, mais au fond, c'est pas ça. Vous venez de nous raconter que c'est toute une autre histoire, que monsieur, madame, tout le monde n'est pas toujours au courant.
Oui, mais moi, je répète ces choses-là sur les ondes de Radio-Canada, sur des télévisions ici au Québec, en France, en Haïti. Je suis très écouté. On m'entend. Les médias ne me ferment pas la porte. D'ailleurs, je suis très surpris moi-même qu'on me laisse parler autant, parce que effectivement, je dis des choses qui sont un peu contraires à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais non, on m'entend, on m'écoute et on me prend très au sérieux. Puis je suis très très flatté de ça. Je suis très honoré de ça. Non, les médias ne me disent pas non. Ce qui m'étonne. Parce que quand on prend position, on a souvent besoin d'être contrarié dans notre propos. On a besoin que quelqu'un vienne nous dire, mais non, vous ne voyez pas les choses de la bonne manière. Il y a une autre façon de voir. Je ne suis pas contesté. Mes propos ne sont pas contestés. J'ai fait savoir ce que je pense à la Croix-Rouge. Je l'ai dit dans une, ce que je viens de vous dire là par rapport aux maisons construites par Maison Labrie. Je l'ai dit en pleine conférence avec des gens de la Croix-Rouge qui étaient là. Ils ne m'ont pas contesté. Les gens de Maison Labrie n'ont pas contesté ce que j'ai dit.
Incroyable.
Donc, quand on ne me conteste pas, on me donne raison. Les gens de Oxfam, les gens des ONG, je leur ai tous dit ces choses-là. Et je l'ai dit dans des conférences où ces gens-là sont là. On ne conteste pas ce que je dis. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que évidemment, j'aurais préféré ne pas avoir raison. J'aurais préféré que ces fillettes-là n'aient pas été violées. J'aurais préféré que ces enfants qui sont nés de ces viols humanitaires soient pris en charge. J'aurais préféré être complètement dans l'erreur. Mais je ne le suis pas. Et ça me désole.
Bien, messieurs, je suis en direct avec Frédéric Boiron, sociologue, auteur, et il a un franc-parler. Vous avez écrit, Monsieur Boiron, il y a 10 ans, ce n'est pas seulement le bâti qui s'est effondré sous l'énergie de la faille à Léogane, la véritable responsable du séisme de 2010, c'est aussi le tissu social qui a été touché et qui n'a pas été reconstruit.
Alors, quand on parle de reconstruction en Haïti, et d'ailleurs de n'importe quelle catastrophe, hein, que ça soit une guerre par exemple, si on pense qu'après la guerre en Syrie, on va construire des édifices, des ponts et des routes, alors qu'il y a eu 300 000 morts jusqu'à ce jour et des millions de personnes déplacées, ben on ne reconstruira pas une société, on va reconstruire un paysage. Donc, le problème qui arrive en Haïti présentement, c'est que la reconstruction est basée uniquement sur le cadre bâti. Alors que c'est faux. Les gens ont eu un choc traumatique. Les gens ont eu il y a des cas de psychologiques qui sont arrivés après ça. Et quand on a un événement comme ça, c'est un événement autour duquel, en réalité, on a pratiquement personne à blâmer. Et comme on dit en anglais, it's an act of God. Oui, bien sûr, on aurait pu limiter les dégâts s'il y avait un code du bâtiment qui était adapté à un séisme, ne serait-ce qu'un séisme de moindre intensité. Il y aurait probablement eu moins de dégâts, moins de morts, etc. Mais n'empêche que quand on perd 300 000 personnes d'un seul coup, encore là, il faut s'entendre sur le chiffre, quand on perd autant de personnes d'un seul coup, chaque personne dans ce pays, chaque personne dans cette ville a perdu quelqu'un. Cette personne qu'on a perdue, c'est peut-être une mère, un fils, un cousin, une cousine, c'est peut-être notre gardienne, c'est peut-être la personne à qui on avait confiance si on était malade pour nous transporter, nous amener à l'hôpital. Donc, quand on vit dans une société, il y a des gens autour de nous qui ont chacune de ces personnes-là a une utilité dans notre vie. Ne serait-ce que ça soit la personne à qui on se confie quand on a un problème. Ne serait-ce que la personne à qui on va emprunter un 5$, un 10$ quand on est mal pris. Donc, le tissu social, c'est ça. Et quand on a autant de morts, eh bien, il y a un problème. Et pourquoi on ne s'arrête pas à la reconstruction du tissu social? Eh bien, c'est parce que dans un pays comme Haïti, la vie humaine n'a pas d'importance. La vie humaine n'a tellement pas d'importance qu'on se rend compte aujourd'hui, au moment où je vous parle, que différents rapports qui viennent d'autorités américaines comme la USAID disent que le nombre de morts qu'il y a eu après le tremblement de terre va de 46 000 à 85 000 personnes. C'est une évaluation. Quand l'État haïtien se prononce, il dit que c'est entre 250 et 300 000 personnes. C'est aussi une estimation. On ne peut pas, dans un pays où la vie humaine est importante, avoir une évaluation dans laquelle on ne sait pas si 50 000 personnes ont existé ou n'ont jamais existé, ou sont morts ou ne sont pas morts.
Incroyable.
Voilà le genre de choses qui me dérange. C'est si aujourd'hui je veux savoir combien de personnes de 25 ans ont une prescription au Québec pour un médicament spécifique pour la dépression, je vais le savoir au bout d'un clic. C'est pas normal qu'on soit dans un pays qu'on ne sache pas où sont passées 50 000 personnes.
Nous recevons beaucoup, beaucoup de réactions de la part des auditeurs. Il y en a une personne qui vient de me lancer un message pour vous inviter à parler de l'insécurité qui règne en Haïti en ce moment. Beaucoup aussi parlent que les Haïtiens en sont fatigués, sont déprimés. Et vous avez aussi parlé, je pense, quelque part, vous avez dit que vous souhaitez voir apparaître un autre séisme politique, social cette fois-ci, afin de mettre la vie humaine et le respect des droits de la personne au centre d'un projet de société en Haïti.
Mais vous savez, les phénomènes d'insécurité en Haïti que votre auditeur, auditrice questionne, ce problème-là, il vient de où? Il vient justement de cette rupture du tissu social, de la perte de confiance de l'un dans l'autre, de l'incapacité de l'État de prendre ses responsabilités, de l'incapacité que nous avons eue après la dictature d'implanter une culture démocratique, parce que on s'est retrouvé à implanter en Haïti le droit de vote et faire croire aux gens que le droit de vote, c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est de prendre conscience qu'on est responsable l'un de l'autre. Et ça, en Haïti, nous ne l'avons pas. Et quand le tissu social se déchire à ce point-là, mais ça laisse la place à un État qui est démissionnaire. Quand l'État est démissionnaire, eh bien, ça laisse la place à des voyous, des bandits qui prennent le contrôle et qui imposent la loi de la jungle. C'est ça qui est arrivé. C'est parce que on s'est arrêté au cadre bâti et non pas à la reconstruction du tissu social.
Quel avenir, justement, pour Haïti en 2020 et les autres années à venir? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, tous les bons amis que j'ai qui aident financièrement ou autres par d'autres moyens, ils me reviennent avec un peu impatients de voir que ça change, mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'espoir pour que ça change en mieux.
Ben, vous savez, ça a toujours été ça le problème en Haïti. C'est qu'on on parle encore d'espoir. C'est pas une question d'espoir. Aristide, qui était un ancien prêtre, s'est retrouvé président d'un pays, du pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Mais moi, je m'excuse. Quand on a un pays dans cet état-là, on ne met pas à la tête de ce pays un ancien prêtre qui n'a jamais même eu la chance de gérer un budget familial. Le problème, c'est que le plus grand défaut de la démocratie, c'est qu'elle permet d'élire le plus populaire, même s'il est incompétent. Et ce qu'on a vu en Haïti jusqu'à présent, c'est que tous ceux qui ont eu accès à ce siège-là sont tous incompétents. Et même dans la députation, dans les sénats, on se rend compte que ceux qui siègent au Sénat, ce sont des anciens artistes, des anciens chanteurs, des gens qui étaient connus, mais qui ne sont pas nécessairement compétents. Et ils font énormément ombrage à ceux qui sont compétents. Le minimum de compétences qu'ils ont, on leur fait ombrage avec des gens qui sont populaires, qui prennent toute la place dans les médias, qui ont beaucoup plus accès aux micros et tout ça. J'écoutais dernièrement des opposants à l'actuel président Jovenel Moïse parler d'un plan de transition qu'on allait se mettre ensemble et puis qu'on allait proposer quelque chose, etc. Mais pourquoi vous le faites pas? Commencez d'abord à faire projet de société. Voilà le problème. On n'a pas un projet de société. Les gens disent on veut ci, on veut ça, mais il faut que Jovenel s'en aille. Mais proposer quelque chose d'abord et puis après, on verra si on est intéressé à ça.
Alors, il y a justement le président haïtien qui vient d'annoncer qu'il veut modifier la Constitution. Hein? C'est intéressant.
Oui, mais encore, voyez-vous, la Constitution a déjà été modifiée. Mais on n'a pas respecté la mécanique de cette Constitution-là. Les gens veulent modifier la Constitution, mais d'abord, il faudrait commencer par la respecter. La transition qui a été faite entre Michel Martelly à Joslem Privert, qui était un président intérimaire, cette démarche-là elle-même était inconstitutionnelle parce qu'elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Et la Constitution dit que quand il y a un président intérimaire, son mandat est de 90 jours et il a 90 jours pour organiser des élections. Joslem Privert a fait 365 jours. Donc, on ne respecte pas la Constitution. Avant d'écrire une nouvelle Constitution, il faut d'abord commencer par la respecter. Avant de commencer par respecter cette Constitution, il faut qu'il y ait une culture démocratique. Il faut asseoir ces gens-là. Avant qu'on se présente aux élections, il faudrait peut-être suivre des cours pour comprendre c'est quoi une constitution. C'est
Écoutez,
quoi la loi.
Oui, c'est tellement intéressant. Les gens vraiment applaudissent ce que vous dites. On reçoit beaucoup d'appels. Et je pense qu'il y a aussi, pour nous, c'est très important d'équilibrer. On sait qu'il y a cette fin de semaine le festival Pop Jazz qui se déroule avec beaucoup d'artistes. Il y a toute une richesse intellectuelle, culturelle, artistique dans ce pays dont on met connaît ici au Canada. Et donc, il faut comment faire pour jongler avec tout ça? Parce qu'on ne veut pas parler que du malheur d'Haïti, mais aussi, il y a de très belles choses qui se passent. Mais souvent, ces artistes, ces intellectuels sont dans l'ombre. Avez-vous une petite idée pour nous?
Mais d'abord je pense que c'est le rôle de l'État d'organiser ce qu'on a à vendre à l'extérieur. Le problème d'Haïti présentement, c'est que dans tous ses échanges commerciaux, Haïti est déficitaire avec tous les pays avec lesquels il fait affaire. À partir de ce moment-là, le pays est condamné à être pauvre. Pour moi, personnellement, l'avenir d'Haïti passe par l'autosuffisance alimentaire. Il faut d'abord qu'on soit capable de nourrir les gens de ce pays. C'est pas normal qu'on se retrouve dans un pays tropical, puis qu'on importe du riz. C'est pas normal. D'accord? C'est pas normal que des enfants aillent à l'école sans manger. C'est pas normal. Maintenant, il faut savoir, il y a des histoires derrière l'impossible autosuffisance alimentaire. Quand Jean-Bertrand Aristide était au pouvoir et qu'il avait été renversé la première fois, en échange de son retour au pouvoir, Bill Clinton avait fait ce que Bill Clinton lui-même appelle « the devil's bargain ». Le devil's bargain, c'était d'ouvrir le marché de l'agroalimentaire, particulièrement du riz, aux producteurs américains. En Haïti, on appelle ça le riz Miami, croyant que le riz venait de la Floride. Le riz ne venait pas de la Floride. Le riz que les Américains ont vendu en Haïti pendant des années venait de l'Arkansas. L'Arkansas, pour bien saisir, c'est l'État que Bill Clinton était le gouverneur pendant 11 ans. Bill Clinton était là pour défendre les intérêts des agriculteurs de l'Arkansas, pas des intérêts des Haïtiens. Et lui-même a dit que c'était un « devil's bargain ». Il sait qu'en échange du retour au pouvoir de Aristide, il a commandé que Aristide mette à sac la production de riz qui était très abondante dans l'Artibonite en Haïti. Maintenant, on peut bien blâmer Clinton, mais il faut aussi blâmer celui qui a accepté cette entente. D'accord? Il faut le blâmer aussi. C'est Aristide qui a signé cette entente avec Clinton.
Et pour terminer, malheureusement, le temps fait défaut, mais on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mais aussi le mois de la francophonie qu'on célèbre à l'antenne depuis très très longtemps. Et pour terminer, c'est pour quand votre propre média, votre propre radio ou d'émission de télévision? On sera prêt à travailler avec vous, hein, même de Toronto.
Ah bon, on aura la chance d'en discuter. Moi, je reste disponible pour tout le monde. Ouais. J'aime bien partager mes idées avec les autres. Ouais. Et puis, je suis content de savoir que vos auditeurs et vos auditrices sont intéressés à ce que je raconte. Mais je dis ce que je pense pour que les gens m'amènent plus loin. Et non pas, je ne prêche pas une vérité.
En tout cas, vous avez le début d'une fan club, comme on dit, à Toronto.
Ah, ben, ça me fait plaisir.
10 ans après le séisme d'Haïti et nous dans tout ça avec frédéricboiron.com. Allez, madame, monsieur, vous allez voir un auteur percutant. Et je pense que vous êtes tous d'accord, mes amis, les professeurs, les étudiants, pour lui donner... de bons applaudissements de la part de tout le monde. Je vous remercie, merci, cher ami, et à très bientôt. Hein.
À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Haïti, tu as tremblé, mais tu as toujours été digne. Montre-nous encore la voie, l'ouverture de sa ligne.
Pour Haïti et son peuple, le compte à rebours a débuté. Tous ensemble, soyons à la hauteur du mot solidarité.
Dieu, qu'ont-ils fait de mal pour que tu martyrises tes enfants mal aimés, sacrifiés, orphelins? Ils chérissaient ton nom, vénéraient tes églises. Ils n'avaient pas grand-chose. À présent, ils n'ont rien.
Ensemble,
CIUT 89.5, Toronto.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Qui va faire pour te déchirer la tête? Sergent Marcus. Sergent Marcus en commande du Big Tempo.
100% hip-hop R&B.
Va monter ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs.
Nous avons des soldats du micro qui sont en studio. Nous allons les recevoir. C'est bien sûr le Ruflex qui est là aussi et surtout CTN All Stars.
Alors, je vous donne, nous allons t'écouter justement en featuring Fari. C'est au bout de la route. Et écoutez quelqu'un qui a des accents très européens dire des choses très africaines, j'allais dire très béninoises, au sujet de Ouida. C'était Glerouenou. Ouvre tes
hommage à tous les Glerouen Vidjidji. Voilà.
Yes, tranquille. Écoute, c'est Yo vous donne, Fari. C'est du slam sensé.
Leo de kunya una nuo atipo campo biwenu
glerouenu si si ouais Ouida est sacré entre tristesse et puissance. Donc ouvre bien les yeux et garde le silence. Ici les légbats observent au détour des chemins, n'esquisse même pas un sourire, baisse calmement la tête et puis joins tes deux mains. Si tu croises le piton d'Angbé, il faut lui céder le passage. Quand les prêtresses vaudou et leurs adeptes défilent, tous les enfants d'ici restent sages. Un monument est là, car seule l'histoire a raison. Les Igbons sont les âmes nègres revenues de ce funeste horizon. Colle ton oreille à la latérite. Écoute, écoute Sarpata te chuchoter et t'enseigner son rythme. Ne te baigne surtout pas, les divinités des eaux sont bien trop rancunières. Cette partie de l'océan est sanctuaire, sanctuaire.
Année 2020, le mois de l'histoire des Noirs ne sera pas un mois comme les autres. À l'antenne de CUT 89,5 FM. Nos amis de la région de Gatineau vous invitent à célébrer l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs en grand, avec le thème « Une histoire à raconter ». C'est le thème de cette 18e édition du mois de l'histoire des Noirs qui s'inscrit dans le devoir de mémoire en offrant un regard éducatif sur l'histoire. Notre invité, Peggy Civil, PDG, entrepreneur, coach de Civil Communications à Ottawa. Et je vous rappelle que du 22 au 23 février 2020,
CUTFM vous donne rendez-vous pour la 29e édition du Mois de l'Histoire des Noirs, ayant pour thème « Ici et maintenant ». Cette édition 2020 du mois mettra à l'honneur des jeunes, des artistes, des agents, agentes de changement, des événements et des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs au Canada et dans le monde. Parmi nos invités spéciaux, Dr. Amadou Ba, professeur d'histoire africaine à Nipissing University à North Bay en Ontario. Il vient de publier un livre intitulé « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada ». Que vous inspire le mois de l'histoire des Noirs ? Vous voulez en savoir plus ou vous souhaitez vous impliquer dans la production de nos émissions spéciales du mois de février ? N'hésitez pas à planifier une rencontre ou appelez-nous. Écrivez-nous à popourri@cut.fm. Le mois de l'histoire des Noirs, tout au long du mois de février 2020. À ne pas rater sur CUT 89,5 FM, la radio que j'aime. Et oui, chaleureux et sincères remerciements à tous les invités, partenaires, bénévoles, correspondants qui s'impliquent à nos émissions, à nos escapades radiophoniques. Merci pour votre contribution. Grâce à vous, nous avons pu atteindre notre objectif de 100 000 dollars. Et oui, ça a été pas très très facile, mais enfin, il y avait beaucoup de défis. Merci beaucoup. Vous êtes tous et toutes d'ailleurs des perles rares, comme on aime à dire, et on vous apprécie beaucoup. Un merci spécial au nouveau collaborateur, notre avocat Peter Bureau, et aussi au professeur Laura Bisaillon, qui était à l'émission la semaine dernière. Merci du fond du cœur. Et là, nous allons nous replonger dans la nuit des idées avec un invité. Je vous rappelle encore une fois que être vivant, being alive, s'agit de la thématique centrale de la troisième édition de Nuit des idées à Toronto. Une soirée d'activités pluridisciplinaires, soit une initiative commune d'art au Art Museum, à la Galerie d'art de l'Université de Toronto, et Art House, qui célèbre 100 ans d'existence, à ne pas oublier. Le tout est organisé ou est organisé en partenariat avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Canada. Et je vous rappelle qu'au programme de cette édition 2020, il y aura des expositions, des performances artistiques, des ateliers, réflexions, débats de haut niveau sur la multiplicité des corps et des enchevrements de l'identité et de leur rapport à la norme. Cet événement mondial est gratuit et aura lieu simultanément dans plus de 70 villes à travers le monde. Le samedi 25 janvier, on vous donne rendez-vous de 17h à 2h du matin, du 26 à janvier, au Musée de l'Art, Art Museum, l'Université de Toronto, Art House. Et je vous rappelle que Art House est depuis 1919 un centre dédié à l'éducation en dehors des salles de classe de l'Université de Toronto. C'est ouvert aux étudiants, à la communauté, tout au long de l'année. Et Art House accueille bien sûr Popourri Show, mais aussi la radio CUTFM depuis plusieurs années. Et on vous invite à tous nos débats, et c'est un débat au dialogue des cultures. Et Art House a des espaces d'études, de repos, de sociabilité et de célébration, tels que le théâtre Vintage, la galerie de renommée internationale Art Museum, une salle de sport et le restaurant Gallery Grill, que je vous recommande personnellement. Alors, je pense qu'on a un invité, j'ai pas son nom malheureusement parce que je suis pas à Toronto, qui va nous parler un peu, va nous donner son avis sur la Nuit des idées, édition 2020. À vous Toronto.
Être vivant, de manière générale, ça renvoie au verbe vivre. Et ce verbe, il est intéressant parce qu'il a un participe présent, vivant, et un participe passé, vécu. Et selon qu'on fait attention à l'un ou l'autre de ces termes, qui sont contenus dans vivre, eh bien, on est emporté vers des mondes complètement différents. Du côté du vécu, c'est une phénoménologie, une expérience, des mondes psychiques qui s'ouvrent à nous. Du côté du vivant, au contraire, ce sont des processus, des substances, des organismes avec toute une matérialité foisonnante et pleine de mystères. Mais donc, selon qu'on s'intéresse au vivant ou au vécu, eh bien, on est emmené vers des mondes différents. Et c'est intéressant sur ce point qu'en anglais, on ait choisi de traduire « être vivant » par « being alive » plutôt que par « living being » parce que, en fait, ça nous met de part et d'autre de cette grande partition entre vivant et vécu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à la fois comment la biologie développe des thèmes, mais aussi comment ces thèmes sont repris dans tout un imaginaire. Et concernant la question du vivant, c'est très intéressant de voir que il y a à la fois un imaginaire social et politique qui investit la question, alors qu'on pourrait penser que la biologie nous dit le tout de ce que c'est que la vie. Je serai à Sydney, en Australie, une ville très intéressante pour sa faune, sa flore actuellement menacée par les incendies. Et nous allons parler de ce que c'est qu'être vivant. La soirée qui aura lieu, je crois, à l'Opéra de Sydney a pour thème en anglais « being alive ». Et je dois dire que j'ai été assez surpris par cette traduction, puisque pour moi, être vivant, c'est plutôt « living being » et « staying alive ». Pardon, « being alive », voilà, j'ai fait un lapsus qui dit un peu mon entrée dans la matière. Ça évoque beaucoup d'autres choses qu'être vivant, en fait. Et donc, j'ai trouvé cette question problématique, puisque le simple fait de traduire la formule « être vivant », eh bien, on a des mondes qui s'ouvrent à nous avec des significations différentes de ce que ça peut vouloir dire « vivre ».
C'est un anniversaire pour les chiclettes.
Pardon garçon, est-ce bien le train de Chattanooga, là sur le quai, vas-y serre dans mes souliers. J'ai les moyens de prendre le train de Chattanooga, j'ai ce qu'il me faut, et même quelques sous en trop. Tu pars de la gare de Pennsylvanie vers les 4h15. Tu lis un magazine, te voilà à Baltimore. Et quoi de plus charmant au wagon restaurant? Voir la Caroline que l'on traverse en jasant. Quand le sifflet se permet de marquer le temps, c'est que Tennessee n'est plus très loin maintenant. Rouler à pleine vapeur sans voir passer les heures. Ouh, ouh, Chattanooga, nous voilà. J'ai les moyens. Qu'il me faut, et même quelques sous en trop. Je vais pleurer si je ne te vois pas en arrivant. Oh, Chattanooga, chou-chou, renvoie le chou-chou chez nous. De voilà à Baltimore. Et quoi de plus charmant au wagon restaurant? Voir la Caroline que l'on traverse en jasant. Quand le sifflet se permet de marquer le temps, c'est que Tennessee n'est plus très loin maintenant. Rouler à pleine vapeur sans voir passer les heures. Ouh, ouh, Chattanooga, nous voilà. Ouh, ouh, Chattanooga, nous. Je vais pleurer
si je ne te vois pas en arrivant. Oh, Chattanooga, tchou-tchou, renvoie le tchou-tchou chez nous.
Eh oui. Bravo, félicitations à tous les amis, les Chiclettes qui célèbrent très grand anniversaire. Peut-être à bientôt sur nos ondes, qui sait, dans le cadre du mois de la francophonie. Les Chiclettes, est-ce que vous êtes là?
Alain Pilot, Nicolas Spiga.
La bande passante sur RFI.
Phase B de la bande avec
un peu d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusé en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Et oui, madame, monsieur, nous nous sommes en plein feu dans le fond de ce spectacle, ce festival Pop Jazz à Port-au-Prince. Eh oui, je ne vous dirai pas où nous sommes, mais l'émission est en duplex jusqu'au 9 février prochain. Mais malgré tout, nous allons, par la magie des ondes, vous offrir le max des max meilleures émissions de 2020. Eh oui, nous avons reçu un message de nos amis Cinéma Sans Frontières de RFI qui nous parle du film Adam, le film courageux de Myriam Touzani qui est sorti au Maroc cette semaine. Ce film très engagé pour les droits des femmes raconte l'enfer des mères célibataires au Maroc. Peut-être un jour on aura l'occasion d'avoir ce film dans le cadre du festival Ciné Franco. Et oui, après sa sélection officielle au Festival de Cannes et avoir remporté 17 prix dans des festivals internationaux, le film Adam, premier long métrage de la Marocaine Myriam Touzani, est sorti mercredi dernier, le 15 janvier, dans les salles du Maroc, 3 semaines avant sa sortie en France. Et je vous rappelle que le 15 janvier, c'était 33e anniversaire de la radio CUTFM. Les gens de la région de Toronto ont célébré en grand. Ça s'est passé, je pense, au restaurant qui donne vue sur la ville de Toronto, que je vous recommande. C'est notre partenaire officiel maintenant. Bien sûr, ici, j'ai parlé du restaurant Broadview Hotel. Et il y a aussi d'autres amis qui veulent s'associer à notre émission, entre autres, Brasserie Gare de l'Est. Quel bon, merveilleux. L'accueil était chaleureux, ça il faut le dire. Mais en plus, on nous a donné toutes sortes de petites choses à goûter que je ne m'attendais pas du tout. Champagne, s'il vous plaît, bouteille de vin. Et merci, merci mille fois. Et on aura l'occasion d'aller festoyer grâce au patron de Bar de l'Est. Peut-être la semaine prochaine, hein, monsieur, vous ferez un petit effort d'avoir le gérant de Bar de l'Est à l'émission, au tout début de l'émission, parce que je sais ces gens sont très occupés à l'heure du brunch, le dimanche. Et un grand merci hein, aux éditions Prise de Parole qui nous présentent le baiser de Nana Bush de Drew Hayden Taylor et traductrice et réviseur qui était à notre émission aujourd'hui, Eva Laverne. Et comment ne pas féliciter et dire merci, bravo à Frédéric Boiron qui est professeur sociologue mais aussi un blogueur. Il contribue au journal Le Devoir, La Presse. D'ailleurs, je pense à 15h aujourd'hui, il va avoir un entretien avec Radio-Canada à Montréal. Et il est l'auteur du livre « Nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit ». Alors, parmi les sujets les plus commentés cette semaine et les réactions des auditeurs, d'ailleurs je vous remercie infiniment, qui dit vrai, 26 000 livres de langue française retirés à la hâte à des bibliothèques publiques torontoises. C'est sûr, la directrice en a présenté des excuses, mais d'après une source, de source très sûre, c'était pas facile pour eux de prendre cette décision. En effet, il y a des problèmes. Il y a peu de gens maintenant qui louent des livres, qui lisent des livres en français. C'est un vrai problème, hein. Il faut pas passer par 4-5 chemins. Non, non, c'est vrai. Il y a de plus en plus de personnes, de jeunes, qui ne lisent pas en français. Et donc, il y avait une décision à prendre. Alors, polémique, le cinéaste Spike Lee, premier noir à présider le jury du Festival de Cannes. Eh ben, tous les Français ne sont pas d'accord avec cette nomination. Et puis le racisme persiste au sein du marché du travail canadien selon un nouveau rapport dont on aura l'occasion d'en parler lors du mois de l'histoire des Noirs. C'est dommage, hein. Et puis, il se passe quelque chose dans l'Ouest canadien. Ils ont voulu acheter mon silence. C'est Hélène Lequit qui raconte son renvoi d'un organisme en Alberta qui s'appelle le Franco. Et puis le prince Harry et son épouse Meghan Markle au Canada, ce qu'en pensent les auditeurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de réactions dans l'ensemble. Personne ne veut payer les frais du prince et de la princesse. Alors la semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'accueillir, madame, monsieur, une représentante du bureau de Mitzi Hunter, candidate à la direction du Parti libéral de l'Ontario et députée de Scarborough-Guildwood, et qui s'est engagé vendredi dernier à améliorer le bilinguisme de la province en lançant sa plateforme pour les franco-ontariens. Elle veut même relancer le commissariat au service en français. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, cocktail de lancement du mois de l'histoire des Noirs à Gatineau, à Ottawa. On vous y invite, madame, monsieur, le 26... donc c'est dimanche prochain à Gatineau, dans la région pas très loin de la ville d'Ottawa. Et nous allons en parler avec Peggy Civil. Et puis, si cela vous intéresse, allez, inscrivez-vous immédiatement dans le cadre de notre 29e édition du mois de l'histoire des Noirs, ici et maintenant. Alors, nous remercions d'ailleurs tous les artistes, les professeurs et les auteurs qui ont déjà appelé pour faire partie de ce mois. Merci mille fois. Et vous pouvez envoyer un message immédiatement à popourri@cut.fm. Je vous invite par la même occasion à vous inscrire pour le mois de la francophonie, c'est-à-dire au mois de mars. Si vous souhaitez être sponsor, parrainer nos émissions ou encore avoir votre logo sur nos sites, parmi nos partenaires, alors vous nous écrivez immédiatement à popourri@cut.fm. Et du 18 au 4 mars 2020, Ciné Franco accueille les élèves et professeurs de Toronto Festival Jeunesse. Je ne sais pas si ça va se faire avec les grèves perlées dans le monde de l'éducation. Enfin, je souhaite que tout va bien se passer pour Ciné Franco. Et dimanche, le 2 février, toujours absent de la ville de Toronto, mais RFI prend le relais, comment verrons-nous les films en 2020? Et il y aura Elisabeth Le Guéret et Sophie Torletin du magazine Cinéma sans frontières qui seront là pour vous entretenir dans tous les cinémas du monde. Magazine de RFI, et puis nous irons au Cameroun, l'Afrique en images, avec Alain Foucault, qui est journaliste et qui a travaillé très longtemps. Je pense qu'il est toujours à RFI, et je vous invite donc à être à des nôtres. Il y aura plein de musique, beaucoup de bonnes choses. Le 2 février, c'est une journée très très spéciale pour nous, ici, à CUT-FM. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Madame, monsieur, encore une fois, je remercie DJ Devera à Toronto, les éditions Prises de Parole, Frédéric Boiron, Eva Laverne et aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés à préparer La Nuit des Idées, édition 2020. à tous ceux et celles qui ont contribué tout au long de la semaine à nos petits sondages. Il n'y a rien de très scientifique, ne vous en faites pas. Et puis si vous désirez avoir, je sais pas moi, un t-shirt, un capuchon ou encore un petit cadeau des îles, vous nous envoyez un message à potpourri@cut.fm. Ici Eric Tader, CUTFM, la radio comme je l'aime.